Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
Midi 56 bientôt sur RMC. Salut à tous, c'est parti pour l'Intégral Sport jusqu'à 15h avant que Benoît Boutron ne prenne le relais. Manu Amoros est avec moi, membre de la Dream Team Foot de RMC. Salut Manu. Manu est avec nous dans quelques instants.
Allô.
Oui,
ouais. Ouais, bonjour Flora, bonjour à tous.
C'est mieux avec le micro allumé. Tout va bien Manu?
Oui, tout va bien, impeccable, merci.
Allez, dans quelques instants, on va suivre avec toi et Julien Landry le coup d'envoi de Montpellier-Lille. Les Montpelliérains en quête d'une troisième victoire consécutive alors que les Lillois et leur dernière recrue veulent rebondir après une défaite à Nice. Un dimanche sport mécanique avec la MotoGP et le Grand Prix de Saint-Marin, départ à 14h. On va le vivre en direct avec Paul Lafitte. Compliqué pour les Français. Johan Zarco partira 6e. Le leader du championnat du monde, Fabio Quartararo, 8e. Et puis la marée orange déferle sur la Formule 1. Grand Prix des Pays-Bas aujourd'hui. Qui pourra arrêter Max Verstappen devant son public? Le pilote Red Bull en pole position. Départ à 15h. Sans oublier évidemment la 15e étape de la Vuelta. L'étape reine de ce Tour d'Espagne et le duel annoncé entre Evenepoel et Roglic. La 6e journée de Ligue 1, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui avec ce Montpellier-Lille à la Mosson. Salut Julien Landry.
Salut Flora, salut Manu, salut à
salut
tous.
Julien.
On va rappeler quand même que du côté de Montpellier déjà, il y a beaucoup d'absents et donc du changement.
Ouais, on pourrait faire une équipe de titulaires rien qu'avec les absents aujourd'hui. Jonas Omlin, TJ Savanier, Christopher Julien, Wabi Kazri, Théo Saint-Luce, Pedro Mendes et Stéphie Mavididi. Voilà pour la liste des absents côté Montpellierin. Du coup, Olivier Dalloglio, il a été obligé de repenser un petit peu sa composition d'équipe. On va partir sur un 4-3-3 relativement défensif. Hein, ce soir avec donc Mathis Carvalho dans les cages, le jeune portier montpellierin préféré à Binguru Camara, recruté cette semaine pour pallier la blessure de Dimitri Berthaud. Falaï Sako, Maxime Estève, Mamadou Sakho et Nicolas Kotza pour la défense à 4. 3 milieux récupérateurs, Léo Leroy, Jordan Ferry, Joris Chautard pour essayer d'alimenter Eliwai Valère Germain et Arnaud Nordin. Et côté Lillois, on va assister à la première d'André Gomes, la recrue en provenance d'Everton, prêtée jeudi soir dans les dernières heures du Mercato, sera associé au milieu de terrain avec Benjamin André et Rémi Cabella. Devant, Jonathan David, Jonathan Mamba et Edon Zegrova. Et derrière, Léo Jardim dans les cages, José Fonte, Bafodé Diakité, Thiago Diallo et Ismaili pour la défense à 4. À noter qu'Adam Ounas, l'autre recrue des dernières heures du Mercato, sera sur le banc.
Ouais, Manu, il n'y a pas le temps d'apprendre à connaître les coéquipiers pour André Gomes, c'est direct une première.
Ah oui, c'est une première. Tu sais, c'est bien aussi de pouvoir être dans un nouveau effectif, un nouveau club et participer à un match. Je crois que si l'entraîneur le met, c'est qu'il a des qualités pour débuter et surtout qu'il est en condition physique. Donc voilà, on va voir si ce joueur-là prêté peut amener au milieu de terrain beaucoup d'assurance pour Lille.
Coup d'envoi dans une minute maintenant. Julien, on est comment au niveau de l'ambiance à la Mosson aujourd'hui?
Allez, on a annoncé entre 12 et 13 000 supporters, spectateurs pour pousser les Payadins. 300 Lillois dans le parcage qui sont arrivés, qui font du bruit. Évidemment, les Montpelliérains aussi qui vont pousser. Alors évidemment, on le dit souvent, c'est un horaire un peu particulier, 13 heures pour jouer au foot. C'est vrai que cette affiche aurait peut-être mérité plus de monde au stade de la Mosson. Mais voilà, il y aura une belle ambiance évidemment animée par la butte Payat qui est en train évidemment de chanter, de pousser pour essayer de vaincre les Lillois qui sont la bête noire des Montpelliérains. Il reste sur 3 succès consécutifs ici les Lillois du côté de la Mosson avec un but notamment l'année dernière de Yacine Zé dans les toutes dernières minutes du temps réglementaire qui avait offert la victoire aux Lillois. Ce sont les Lillois qui vont donner le coup d'envoi. Jérôme Brizard sera l'arbitre de la rencontre, Olivier Dalloglio évidemment coach côté Montpelliérain et Paolo Fonseca le coach lillois. Le public qui pousse et le coup d'envoi qui va être donné à l'instant. maintenant. Ça y est, coup d'envoi donné par les Lillois avec Jonathan David et évidemment Rémi Cabella qui fait son retour lui aussi, qui n'avait plus joué depuis le 12 août et la deuxième journée du côté de Nantes. Il fait son retour dans son club formateur. Rémi Cabella, lui qui avait fini la saison du côté de Montpellier après avoir quitté la Russie suite au conflit. Il est arrivé à Montpellier non conservé par les Montpelliérains. Il a signé à Lille blessé et il va donc retrouver cet après-midi un poste de titulaire, alors que là Jordan Ferry vient de prendre un bon taquet d'entrée que Manu n'aurait pas rogné à sa grande époque. Celui-là, Manu, il aurait pu le distribuer après 30 secondes. En tout cas, on annonce la couleur, Manu.
Ouais, c'est vrai que il y a de l'agressivité, c'est un peu normal. Je crois que les deux équipes veulent gagner, veulent mettre de la pression sur l'adversaire. Et c'est vrai que c'est un jeu un peu agressif. Mais bon, c'est de bon augure aussi. Je crois qu'il faut se faire respecter.
C'est vrai que Benjamin André a souvent tendance à flirter avec les cartons rouges quand il vient à Montpellier. Ouais. Et là, pour cette première intervention sur Jordan Ferry, pas sanctionné.
C'est pas méchant quand même, c'est pas non plus.
Pas attaque d'assassin, mais voilà. En tout cas, on montre la couleur d'entrée. Il y aura de l'intensité cet après-midi ici à La Mosson, où après 1 minute 15 de jeu, ce sont les Montpellierains qui ont le ballon, même si là ça va être perdu, récupéré par Rémi Cabella. Rémi Cabella qui va se mettre dans le sens du jeu. Et la faute de Joris Chautard et Nicolas Cozza sur Rémi Cabella, qui va offrir un coup franc aux Lillois. Jouer rapidement, mais monsieur l'arbitre refera tirer le coup franc. 1 minute 30 à La Mosson, 0-0, bien évidemment.
Un petit mot sur Lille, tiens Manu, parce que c'est vrai que le début de saison est un peu en dents de scie, on n'arrive pas à enchaîner les bons résultats, on a du mal un petit peu à cerner cette équipe aussi.
Oui, on a du mal à cerner cette équipe. Tu sais, quand tu prends 7-1 chez toi contre le Paris Saint-Germain, c'est un peu compliqué. Heureusement qu'ils ont bien rebondi à Ajaccio en allant gagner 3-1. Après, de nouveau, tu repères dans la semaine à Lille, contre Nice, 2-1. Donc, c'est vrai qu'on s'attendait un peu mieux de cette équipe lilloise. En espérant que, avec des matchs, entre guillemets, des matchs un peu plus faciles, ce groupe va se retrouver et va nous amener à avoir du meilleur football.
Il y a eu beaucoup de changements, il faut dire, à l'intersaison aussi côté lillois. 10 joueurs recrutés, un nouvel entraîneur, un changement un petit peu de philosophie.
Julien, c'est pas trop une excuse ça non plus.
Non, bien sûr, mais je veux dire, il faut aussi prendre le
récupérer avant.
Attention, par contre, à Eli Wahi, dans la fondeur, la bonne sortie de Léo Jardim. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. Alors, je suis d'accord avec Manu, c'est pas une excuse, mais c'est vrai que il faut aussi que la mayonnaise prenne entre tous ces nouveaux joueurs, ce nouveau coach avec cette nouvelle philosophie aussi de jeu, avec cette volonté, en tout cas, d'avoir des longues possessions, d'avoir une volonté de jouer au football. C'est ce qui leur a coûté d'ailleurs cette raclée contre le PSG, cette volonté de pas fermer le jeu. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué ce début de saison pour les Lillois, même si là ils sont partis à l'offensive avec Rémi Cabella, la feinte de centre face à Nicolas Cozza, sifflé par le public payadin. Il trouve dans la profondeur, très bien joué Zegrova, mais le bon retour cette fois-ci de Mamadou Sakho et le ballon qui sera récupéré encore une fois par les Lillois avec Zegrova, la feinte de frappe, Zegrova sur son pied gauche, la nouvelle feinte de frappe, la frappe elle sera contrée cette fois-ci par Mamadou Sakho. Mais quel travail de Zegrova, deux fois la feinte de frappe du pied gauche, deux fois pour enrhumer des Montpelliérains, et finalement au moment où il a frappé, c'est Maxime Esteve qui est revenu au dernier moment pour contrer cette frappe de Zegrova qui partait bien. Mais quel travail du joueur du Kosovo, Manu. On va suivre le corner, mais c'est vrai que Zegrova il a donné un petit peu le tournis à la défense montpelliéraine. Le corner frappé par Jonathan Bamba sur le point de pénalty, la tête de David qui va heurter la barre transversale de Matisse Carvalho. Quel coup de casque, c'était Diallo, quel coup de casque de Diallo au point de pénalty. Le ballon qui est venu fracasser la barre transversale de Matisse Carvalho qui était battu, mais les Lillois ont démarré très fort cette partie. Mais alors la tête de Diallo, elle est magnifique, Carvalho sauvé par sa barre transversale. 4 minutes 0-0.
Ouais, là, Manu, la défense, elle était un petit peu aux abois.
Le problème, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a des joueurs lillois qui sont en mouvement et les Montpelliérains qui sont statiques, arrêtés. Donc, le joueur en mouvement, il est là pour attaquer le ballon et il devance Sakho. Donc, c'est compliqué pour les Montpelliérains parce qu'ils doivent être eux aussi en mouvement pour empêcher ce genre de situation.
4 minutes 30 à la Mosson, 0-0, mais grosse entame. En tout cas, des Lillois, attention à ce ballon que Eliway a failli venir récupérer dans les pieds de José Fonte, mais les Lillois le récupèrent avec Diallo qui a donc tapé la barre transversale avec cette tête, et Diallo qui trouve encore une fois dans la profondeur. Cette fois-ci, c'est Ismaili. Ismaili qui joue en retrait pour Jonathan David. Jonathan David, il y a cette phase de réparation qui redécale Ismaili. Le centre d'Ismaili en retrait. David qui arrive à contrôler la frappe. Et cette fois-ci, c'est Mamadou Sakho qui se couche parfaitement devant l'attaquant canadien pour l'empêcher de marquer son troisième but. Mais très grosse entame des Lillois dans cette partie avec déjà trois grosses situations pour les hommes de Paolo Fonseca. Zegrova, Diallo et là à l'instant Jonathan David. Mais Mamadou Sakho cette fois-ci, il s'est bien couché, mais il va falloir que les Montpellierains se réveillent très vite parce que là les Lillois entament très fort cette partie avec déjà trois situations très nettes. Manu, il va falloir que les Montpellierains rentrent dans cette partie parce que sinon le score pourrait être lourd.
Oui, absolument, il faut qu'ils rentrent dans la partie, mais qu'ils soient un peu plus agressifs, qu'ils arrivent à gagner les duels et surtout qu'ils gardent le ballon. Quand ils récupèrent le ballon, malheureusement ils le perdent trop rapidement et ils s'exposent à chaque fois au bon pressing des Lillois et qui vont vers le but, ils ne reculent pas. Donc il faut faire attention, il faut que le Montpellier maintenant remonte un peu plus le terrain pour aller chercher les Lillois.
Et là ils avaient fait une bonne récupération justement par Jordan Ferry, mais derrière la dernière passe elle n'a pas été assurée par Léo Leroy vers pour Eliwahi, et les Lillois repartent à l'offensive avec André Gomes, la très belle transversale pour Zegrova face à Nicolas Kozza. Zegrova qui va lancer dans la profondeur. Jonathan David face à Mamadou Sakho. Jonathan David, les petites feintes de dribble, les passements de jambes, et on va retrouver Zegrova en retrait cette fois-ci pour Rémi Cavella avec Diallo, et le ballon qui sera récupéré encore une fois par les Lillois avec Benjamin André. Les Lillois qui conservaient ce ballon depuis le début de la partie avec Diakité. Diakité, on décale cette fois-ci sur le côté gauche pour Ismaili. Ismaili dans la profondeur pour Bamba qui recherche Ismaili. Il a cherché le dribble derrière la jambe d'appui, mais les Montpellierains vont pouvoir se dégager. À noter aussi, Manu, que les latéraux lillois jouent très très haut, et que ce soit Diakité ou Ismaili. C'est-à-dire que les Montpellierains, s'ils récupèrent très vite le ballon, ils peuvent avoir des 2 contre 2 à jouer, parce que ce soit Diakité ou Ismaili, on joue quasiment à 4 joueurs à vocation offensive sur la même ligne avec des latéraux qui jouent quasiment ailiers.
Ouais, mais ça, quand tu as le ballon, c'est un peu normal. Donc il y a les apports des deux latéraux, mais des joueurs de piston maintenant, comme on dit. Donc c'est tout à fait normal, et je pense qu'ils se replacent assez vite. Donc à partir de là, il faut faire attention que André d'un côté et Gomes de l'autre fassent bien le tampon entre les deux. C'est-à-dire que si à droite Diakité monte, il faut qu'André reste en couverture pour pas que, comme tu disais, empêcher les Montpellierains de sortir de ce côté.
7 minutes 30 à la Mosson, Flora, toujours 0-0 entre Montpellier et Lille, mais la très grosse entame des Lillois dans ce début de partie.
On suit la 6e journée de...
Attention, peut-être à Jonathan Mamba qui part dans la profondeur. Est-ce qu'il y a faute de Falai Sakho? Non, mais le très bon retour de Falai Sakho alors que Jonathan Mamba allait se présenter seul face à Matisse Carvalho. 8 minutes, 0-0.
Je le disais, on suit la 6e journée de Ligue 1 dans l'Intégral Sport sur RMC avec Manu Amoros, Montpellier, Lille. Manu, c'est vrai qu'on parlait de ces nombreux changements aussi à l'intersaison du côté lillois. Ça y est, c'est un petit peu plus apaisé. C'était un peu tendu entre le coach Paulo Fonseca et puis ses dirigeants, notamment Sylvain Armand.
Oui, mais dans tous les clubs, tant que le mercato n'est pas terminé, les entraîneurs sont assez tendus parce que on ne sait pas si on doit encore recruter par rapport aux matchs que leur équipe font. Et à partir de là, eh ben soit on a du potentiel financier aussi pour pouvoir acheter des joueurs, ou on n'en a pas. Donc voilà, je pense que les entraîneurs doivent être soulagés que ce mercato soit terminé. Ils ont un effectif, il va falloir faire avec jusqu'à la trêve. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est tendu, c'est normal. Les entraîneurs sont là aussi pour gagner des matchs parce qu'on leur met aussi énormément de pression. Donc ils veulent avoir des joueurs compétitifs.
Ouais, c'est vrai, mais le faire devant la presse, c'est vrai que c'est toujours un petit peu étonnant. Manu, quand tu vois cet effectif lillois qui est donc a priori qui va rester comme ça jusqu'à au mercato hivernal, est-ce qu'il te plaît? Est-ce qu'il manque quelqu'un à un poste ou pas?
Ouais, ça, l'avenir va nous le dire. C'est vrai que ils ont pas fait quand même un très bon début de championnat, même s'ils ont eu une belle victoire contre Auxerre, je crois, 4-1 chez eux.
La première journée.
La première journée,
Ouais, c'est
donc
ça, c'est ça.
À partir de là, bon, c'est un effectif. Il va falloir voir comment eux ils vont pouvoir se gérer eux-mêmes et comment l'entraîneur va mettre un jeu collectif un peu plus important. Et là, on le voit tout de suite avec contre Montpellier, on a quand même un jeu des Lillois assez haut, collectif. Ça change d'un côté et de l'autre. Ça va assez rapide. Donc Zegrova qui est un dribbleur et qui, moi, j'aime bien parce que c'est un joueur qui va chaque fois provoquer avec un David. S'il arrive à retrouver ses marques devant et marquer des buts, ça peut être une équipe très intéressante pour notre championnat.
Julien Landry, on suit avec toi.
Ouais, Zegrova, justement, dans la stade de réparation, le dribbleur dont parlait Manu. Hein, c'est vrai qu'il a des petits appuis qualité, dans la surface de réparation. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour les défenseurs, hein, parce que c'est des tout petits appuis à chaque fois, ça va très vite. Et on sent que les Montpellierains ont du mal à le cerner. Alors que là, Eli Wai va peut-être avoir un bon ballon à jouer dans la profondeur. On sait qu'il va très très vite. Eli Wai, mais le très bon retour de Thiago Diallo. Ah, ça aurait été José Fonte. Eli Wai, il aurait pris le meilleur, mais malheureusement pour lui, c'était face à Thiago. Et Diallo, il va aussi vite que Eli Wai quasiment, mais voilà, c'est ballon de récupération des Montpellierains. Il y aura peut-être des bons moments à jouer parce que voilà, ils vont être Eli Wai face à la défense centrale lilloise qui n'est pas réputée pour aller très vite, notamment José Fonte, mais en tout cas c'est grosse possession de balle pour les Lillois depuis le début de la partie avec Rémi Cabella qui va s'appuyer sur Jonathan David, qui retrouve Rémi Cabella qui redonne à Jonathan David dans la profondeur. Superbe frappe et la parade de Matisse Carvalho. Mais Ismaïli, encore une fois, hein, il joue quasiment ailier. Il est plus haut quasiment que Jonathan Bamba. Bamba, il est dans le cœur du jeu. Ismaïli, il a parfaitement dédoublé.
Et c'est le poteau.
Je crois que c'est le poteau.
Ouais.
Ouais, c'est le poteau. Il me semblait que Carvalho l'avait touché. Non, mais là, cette fois-ci, c'est le poteau qui sauve Matisse Carvalho. La baraka pour le jeune portier montpellierain depuis le début de la partie. La transversale à la quatrième. Le poteau cette fois-ci. Mais le danger se rapproche dangereusement de la cage des Montpellierains. Mais ce que nous proposent les Lillois, Manu, depuis le début la partie, ouais. En tout cas, c'est très très intéressant. Hein.
Ouais, c'est très intéressant. Et puis là, on voit aussi le mauvais placement entre Leroy et Cosa. Donc à partir de là, il faut que les deux joueurs de Montpellier s'entendent bien, arrivent à dialoguer au niveau du replacement et du replacement. Parce que là, c'est trop facile. Ismaïli a pu demander ce ballon entre deux joueurs. On a pu lui donner tranquillement. Après, une belle action collective de la part des Lillois. Donc attention à Montpellier, s'ils ne veulent pas prendre un but, il va falloir resserrer un peu plus et monter un peu plus haut pour aller chercher les Lillois plus haut, parce que sinon là ils vont se faire dominer toute la première mi-temps.
Et attention, et le corner,
quand on est dominé, c'est pas bon.
Et le corner, les Montpellierens qui vont réussir à se dégager avec Eli Wai et le très bon retour cette fois-ci de Zegrova, et les Lillois qui repartent à l'offensive avec André Gomez qui va trouver Benjamin André pour Ismaïli avec Diallo, et on est reparti pour une longue séquence de possession côté Lillois avec Rémi Cabella qui va trouver José Fonte. 12 minutes à la Mosson, 0-0. Attention à ce ballon mal donné avec Eli Wai face à Jardim. Eli Wai qui le dribble, la frappe. Et ça sera sauvé par Léo Jardim sur cette très mauvaise passe en retrait de Rémi Cabella. Eli Wai, il avait parfaitement lu la situation et il a été défié. Léo Jardim qui est resté le plus longtemps possible sur ses appuis pour ne pas offrir de situation à Eli Wai. Très bien joué du gardien brésilien aussi sur cette situation-là qui a empêché Eli Wai d'ouvrir le score. 0-0, 13 minutes à la Mosson. Première partie de première mi-temps, très plaisante en tout cas.
Ouais, comme quoi, Manu, on peut dominer le premier quart d'heure et se faire peur comme ça sur une action. Hein.
Ouais, mais c'est ça. Les contres, une mauvaise passe. Fonte pense avoir fait une passe assez correcte et malheureusement trop courte. Mais Wai, on a l'impression qu'il se met trop sur son côté droit. Il se ferme complètement l'angle. Si peut-être il était venu un peu plus sur son pied gauche, ouvert un peu plus l'angle, là, ça aurait été un peu plus dangereux. Mais là, ça aurait été quand même compliqué de pouvoir marquer un but. Hein.
Ah mais j'ai peur qu'il ait pas très confiance à son pied gauche, Eli Wai, encore. Tu vois, Manu, je pense que...
Ah ouais, mais bon, t'es professionnel, tu dois au moins le savoir un petit peu, quoi.
C'est vrai, mais je pense qu'il avait plus confiance à son pied droit et...
Ah ouais, mais il se ferme l'angle. Du moment que tu te fermes l'angle, c'est un peu plus compliqué de marquer.
Et puis Jardim, il est resté très longtemps sur ses appuis. Ouais. Pour le coup, tel un gardien de Horn, il s'est pas couché, il a offert aucune solution à Eli Wai, et les Lillois s'en sortent très bien. Parce que comme tu dis, Flora, après cette domination, être mené après 13 minutes, ça aurait été cruel pour l'équipe de Paulo Fonseca. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont vécu un peu contre Nice, hein, mercredi soir. Très grosse domination. Et ils se sont quand même inclinés 2-1. On sent des Lillois très joueurs, mais qui concèdent quand même des situations qui peuvent se mettre en danger avec cette grosse volonté de posséder le ballon. Avec encore une fois, il y a un très bon ballon récupéré par Falaï Sakho pour Nordin. Nordin avec Eliwahi. Et le très bon pressing de Benjamin André qui va récupérer ce ballon dans les pieds d'Eliwahi avec Ismaili. Ismaili pour Bamba et Falaï Sakho. Très intéressant. Depuis qu'il est retrouvé sur son poste de latéral droit, Falaï Sakho, c'est une vraie satisfaction pour Olivier Dalloglio. Il avait eu des grosses difficultés dans l'axe, mais sur la droite, il est beaucoup plus intéressant. Alors que là, Eliwahi. Eliwahi, ah, il est face à 4 Lillois. Hein. Il est tout seul. Eliwahi, il va falloir qu'il se débrouille parce que là, il y avait Benjamin André, José Fonte, Diallo. Alors, toutes les portes sont refermées devant lui. C'est très compliqué pour le jeune attaquant montpellierain. Au quart d'heure de jeu, 0-0. Mais les Montpellierains ont déjà été sauvés deux fois par leur montant, la barre transversale et le poteau.
13h14 dans l'Intégral Sport avec Manu Amoros. On continue de suivre la sixième journée de Ligue 1 et ce Montpellier-Lille 0-0. Donc après un quart d'heure, dans quelques instants, on va revenir sur la belle victoire du PSG hier soir face à Nantes. Supporters parisiens, appelez-nous au 32-16 pour réagir avec Manu Amoros sur cette victoire parisienne avant le retour de la Ligue des Champions.
RMC Intégral Sport,
Flora Messi. 13h17 sur RMC, on suit Montpellier à Lille avec Julien Landry, un très beau coup franc.
Ouais, Léo Leroy, et ça sera dans le mur. Et c'est là où TJ Savagnier, il manque Manu, parce que ce coup franc-là pour TJ Savagnier, on n'aurait pas annoncé but, mais en tout cas, la frappe aurait sûrement été cadrée et elle aurait mis en danger Léo Jardy. Mais cette fois-ci, Léo Leroy, il a heurté le mur directement sur un très bon contre des Montpellier, encore une fois. Une bonne balle récupérée par Falaï Sakho. Attention à ce ballon perdu, cette fois-ci par les Montpellier avec Jonathan David. Jonathan David qui va vite, qui accélère, et le bon retour de Maxime Estève qui a récupéré un petit peu de sa boulette. Et il avait été pris dans ses pieds par Cabella. Et derrière, le très très bon retour de Maxime Estève, très solide. Parce que, alors évidemment, Jonathan David, il avait la balle pour courir et forcément il va moins vite. Mais Estève a fait preuve en tout cas de beaucoup de qualité sur cette situation-là pour rattraper l'attaquant canadien. Mais c'est un match très plaisant. En tout cas, ça va d'un côté à l'autre. Et avant ce coup franc, c'était un très bon travail d'Arnaud Nordin qui avait récupéré le ballon dans sa moitié de terrain, qui avait été défié toute l'arrière-garde lilloise et qui avait été attrapé par le bout du maillot par Thiago Diallo, qui a d'ailleurs pris un carton jaune sur cette situation. Mais c'est un match extrêmement plaisant pour le moment. Alors que là, encore une fois, Ismaili est très remuant sur son couloir gauche avec Jonathan David et Jonathan Bamba, et le ballon qui sera récupéré par les Montpellierains, par Léo Leroy avec Jordan Ferry. Aucune pause dans cette partie. Ça va d'un côté à l'autre, ça va à 100 à l'heure. Et là, c'est Mathis Carvalho qui va dégager loin devant. 19 minutes, 0-0. On reprend nos esprits, mais on se régale depuis 20 minutes à la Mosson.
Ouais, Manu, on n'a pas le temps de souffler dans ce match, dans les 20 premières minutes. C'est chaud et il ne faut pas perdre la balle en fait. Hein.
Ah, on a perdu Manu, ça va trop vite. Ça va trop vite, Manu.
Manu, il a été assommé par cette première partie.
Il a été assommé par cette première partie-là. Il est parti se désaltérer. Il a chaud comme les joueurs. Mais en tout cas, les Lillois repartent à l'offensive. Hein. Ils ne s'arrêtent pas non plus. Les Lillois, Flora, c'est impressionnant depuis le début de cette partie. Ce que proposent les hommes de Paolo Fonseca. Une possession quasiment sans partage. Et encore une fois, c'est Diakité sur le couloir droit qui cherche Rémi Cabella, qui se propose beaucoup. Attention à ses passes parfois dangereuses. Tout à l'heure, Eliwahi, il avait bien senti, cette fois-ci elle est passée au-dessus de la tête du jeune international espoir, équipe de jeunes de Eliwahi, et le ballon sera derrière, perdu par les Lillois avec Ferry qui joue pour Leroy, un petit jeu en triangle avec Falaï Sakho, Falaï Sakho avec Léo Leroy pour Jordan Ferry. 20 minutes à la Mosson, 0-0.
Manu, est-ce que t'es là?
Oui, je suis là.
Attention à Eliwahi, il lui en faut pas beaucoup à l'attaquant montpelliérain. Tout à l'heure, il n'avait pas réussi à aller tromper Léo Jardim. Et cette fois-ci, la sortie de Léo Jardim, elle n'est pas impériale. Elle est sur ce coup-là, mais elle entre dans ces ballons-là, hors de la surface de réparation. Avec les rebonds, c'est parfois compliqué pour les gardiens à gérer. D'ailleurs, on avait vu mercredi, Omlin était sorti, il avait pris un carton rouge. Et cette fois-ci, Léo Jardim, il n'a pas voulu intervenir sur cette excellente ouverture de Jordan Ferry dans la profondeur entre l'axe central lillois et le rebond qui trompe Jardim. Et derrière, Eliwahi, lui, qui récupère le rebond et qui va tromper Jardim. Ils ont tous été trompés, les deux Lillois, le portier et Eliwahi. Mais au final, c'est Eliwahi qui sort vainqueur de cet affrontement. Et les Montpellierains mènent à 0 après 22 minutes de jeu.
Compliqué, Manu, quand même.
Sorti compliqué, mais il y a les deux défenseurs centraux, que ce soit Diakité et Fonte, ne jouent pas. Ils regardent le Montpellierin récupérer le ballon et pouvoir ajuster le gardien. C'est vrai que le gardien, c'est compliqué, mais bon, il doit peut-être faire une sortie mieux que ça, ou alors attendre, puisqu'il y a les deux défenseurs, il doit peut-être attendre dans son but et ne pas sortir. Bon, après, c'est des décisions qu'il faut prendre très, très, très rapidement. Là, il a pris la mauvaise décision. Mais moi, j'en voudrais plutôt aux deux défenseurs qui ne font pas le job, quoi. Et ils laissent faire le Montpellier-Rhin pour pouvoir ajuster le gardien lillois.
Mais ça, on sent que ça a été travaillé, Manu, parce que j'ai les analyses vidéo à côté de moi et le jeu dans le dos, dans le dos de José Fonte, comme ça, où on sait qu'Eli Way, lui, va très vite et que José Fonte, c'est pas sa qualité première, la vitesse. On a vu que Jordan Ferry. Alors c'est pour ça que Ferry a cherché très vite la profondeur.
Ouais, mais c'est pour ça que Thiago doit rester à côté de Fonte. Il doit pas monter, parce que là, on l'a vu, il était quand même très haut sur ce ballon en profondeur.
Et c'est vrai que du coup, je disais, mercredi, il y a eu la même situation entre Montpellier et Ajaccio. Un ballon dans la profondeur, Omlin était sorti et il avait raté sa sortie, sauf qu'il avait percuté l'attaquant d'Ajaccio. Il avait pris un carton rouge, mais c'est vrai que ces ballons-là, pour les portiers, c'est compliqué, parce que s'ils touchent avec la main, ils prennent un carton rouge parce qu'ils sont hors de la surface de réparation. Et c'est vrai que parfois, tu te dis, est-ce qu'il vaut mieux pas rester dans sa surface de réparation, attendre le rebond? Mais il y a un peu.
Ouais, mais quand tu vois deux défenseurs qui viennent et qui peuvent éventuellement l'empêcher de pouvoir ajuster ce lobe, reste dans ton but, ne bouge pas. Enfin, je pense.
Non, mais c'est vrai
après,
qu'après,
je suis pas gardien de but, mais
la décision, elle doit être prise rapidement et on sent qu'il n'a pas pris la bonne décision, là, en tout cas.
Ouais, il n'a pas pris la bonne décision, non.
Ça, c'est ce qu'on peut dire. Et on en revient tout à l'heure. Que les
comme
Lillois,
quoi, tu vois, le mini n'est pas gagné, parce que les Lillois, ils se sont créés des occasions, ils maîtrisent le jeu au niveau du collectif et sur deux comptes, ils ont été très dangereux, les joueurs de Montpellier. Sur l'un, ça fait mouche.
20 minutes d'une possession sans partage. Carvalho sauvé par sa barre transversale à la 4e, par son poteau à la 12e, et les Lillois qui ont multiplié les offensives. Et derrière, finalement, ils avaient eu déjà une alerte sur le premier contre raté par Wahi et sur le deuxième ballon perdu, le deuxième contre Montpellierin. Et ça a fait mouche pour Eli Wahi, qui marque quand même son 4e but déjà cette saison. Le jeune attaquant de 20 ans qui confirme en tout cas tout son potentiel. Manu, sur ce coup-là, tout à l'heure, il n'avait peut-être pas très bien joué. Cette fois-ci, il a parfaitement ajusté l'arrière-garde lilloise et gros potentiel. Ouais,
mais bon,
en tout cas,
on te laisse faire un geste aussi facile que ça, parce que c'est assez facile pour un attaquant de pouvoir lober un gardien qui vient à sa rencontre. Mais il faut quand même avoir de la qualité technique pour pouvoir bien l'ajuster, lever la tête pour savoir où se trouvent les deux joueurs, les deux défenseurs et le gardien de but. Non, c'est un but très important et c'est un but d'un buteur comme lui.
On suit la 6e journée de Ligue 1 toute la journée sur RMC. 1-0 donc pour Montpellier face à Lille, avant le choc ce soir entre Nice et Monaco, à suivre évidemment dans l'after avec Thibaut Giangrande puis Gilbert Bribois. Hier, le PSG a assuré l'essentiel à la Beaujoire face à Nantes, victoire 3-0. Manu, je parle d'essentiel parce que c'est le retour de la Ligue des Champions mardi soir au Parc des Princes face à la Juve, et sans être étincelant, finalement Paris s'impose tranquillement.
Oui, ils ont fait le job. Ça a été facilité par l'exclusion de Fabio, mais c'est vrai qu'on les sentait quand même avoir cette maîtrise, ce collectif qui est là, bien présent. Donc une belle victoire. Ils préparent leur match de Coupe d'Europe. Neymar était sur le banc, il est rentré. Ramos aussi. Galtier arrive à gérer ces joueurs très importants. Et ils ne font pas la gueule, donc ça c'est bien aussi, parce que pour le banc, pour la suite de la compétition, c'est bien que les joueurs acceptent aussi, même les grandes vedettes, d'être sur le banc.
C'est toute la difficulté quand on est coach du PSG ces dernières saisons. Christophe est avec nous, supporter parisien au 32-16. Salut Christophe.
Salut Christophe.
Est-ce que, comme Manu, toi tu es content, rassuré de cette performance des Parisiens avant le retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes?
Je suis intervenu dans les Paris RMC, donc j'avais dit doublé de Mbappé, doublé de Neymar. Neymar, il est rentré un peu plus tard. Mais donc Galtier, on lui a promis plein de choses de méchantes. Et du coup, il gère les égos de chacun.
Ouais, c'est toujours un petit peu.
Mais si tu sais, les joueurs, ils sont d'accord aussi. Ils acceptent aussi de pouvoir être remplaçant et de ne pas commencer un match.
Donc, en plus, il y a la Coupe du Monde qui va venir vite.
Oui, il y a la Coupe du Monde qui va vite. Mais bon, quand tu as des joueurs comme Neymar ou Ramos, tu as du mal à t'en passer. Mais malheureusement, en jouant tous les trois jours, là pendant pratiquement deux mois, il va falloir faire un turnover. Donc Galtier en a parlé déjà à ces joueurs-là depuis le début de saison, je suppose. Et ils ont bien intégré ça dans leur tête, les joueurs.
Oui, ça a l'air d'être bien géré quand même par Christophe Galtier, ce turnover. Vas-y Christophe.
Mais ouais, du coup, c'est Galtier. Il savait où il mettait les pieds, et mais il essaye de gérer les égos de chacun, et du coup c'est un bon travail de sa part.
Alors, c'est vrai que c'est bien, c'est un bon travail de sa part. Là, pour l'instant, en championnat, il survole le championnat, il gagne des matchs, il marque énormément de buts. Après, il va falloir le voir et voir comment il va réagir dans la difficulté quand le Paris Saint-Germain va commencer soit à perdre des matchs, soit sur la Ligue des Champions. Ouais. Est-ce que ça va être une difficulté si jamais il perd des matchs, et comment il va gérer ce groupe-là?
Ouais, s'il y a une difficulté contre la Juventus. On verra bien comment les gens ils vont réagir, mais oui.
Ouais. Préparation idéale en tout cas pour les Parisiens avant ce match face à la Juve. C'est en tout cas l'avis du capitaine Marquinhos.
L'équipe elle a fait un bon schéma jusqu'ici. Si on va dire on est prêt. C'était la meilleure des préparations. On a fait des très bons matchs, on a gagné. Ça fait deux fois on fait des clichés. Deux matchs à l'extérieur, on a fait des bonnes performances. C'est la meilleure des préparations. On sait qu'il y a Champions League, il y a toujours un contexte différent. C'est des matchs à part. La bonne préparation, elle était là. Maintenant, il faut assurer sur le match de Champions League et faire un super match à la maison pour gagner.
Le petit bémol quand même, Manu, sur ce match face à Nantes, ouais. C'est la blessure de Vitinha au milieu de terrain.
Oui, mais je crois que c'est pas grand-chose. À mon avis, il a dû prendre un petit coup. On n'a pas pris de risque pour ce joueur-là, qui est quand même très important avec Verratti au milieu de terrain, parce que c'est les deux sentinelles dans l'axe et au milieu de terrain, donc c'est très important. Mais je pense qu'il va être titulaire contre la Juve mardi.
Ouais, Christophe, ça t'inquiète pas, toi, l'absence possible ou probable de Vitinha? Tu penses que Renato Sanchez peut suffire à suppléer?
Non, malheureusement, il va pas le supplier. Enfin, d'après ce que j'ai vu, je pense qu'il va pas le supplier. Après, je peux peut-être me tromper, hein. Mais Vitinha, il a quand même prouvé, et Renato Sanchez, il a fait deux matchs, et malheureusement, contre Monaco, il a pas été bien. Et du coup, on verra. Contre la Juventus, c'est quelque chose. C'est un peu plus fort.
Ouais, Manu, t'es pas convaincu toi non plus par Renato Sanchez?
Non, je suis pas très convaincu par Sanchez, parce que c'est vrai qu'il a, comme disait Christophe, il a eu l'opportunité de pouvoir montrer ses qualités et n'a pas su les saisir. Donc voilà, il y a deux joueurs qui sont venus à la fin du mercato. Deux joueurs de milieu de terrain qui, à mon avis, sont un peu au-dessus de Sanchez. Alors à lui à rentrer dans cet effectif qui est monstrueux, hein, un énorme effectif, à lui à montrer ses qualités dès qu'il peut rentrer.
On verra ce que va nous réserver Christophe Galtier mardi soir au Parc des Princes face à la Juve. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous au 32-16. On retrouvera les Parisiens donc évidemment sur RMC pour une très belle soirée Champions League à partir donc de 20h dans l'After. On continue de suivre la sixième journée de Ligue 1 avec Montpellier face à Lille. Julien Landry, les Montpelliérains toujours en forme. Comment ça se passe?
Ouais, on approche de la demi-heure de jeu. Et dans une minute, toujours 1-0 pour les Montpellierains avec ce but d'Eli Wahi à la 20e. Et on sent d'ailleurs depuis 10 minutes que ce but a mis un coup sur la tête derrière les
Lillois. Ça les a calmés, celui-là.
Ouais, clairement, hein, c'est ce que j'allais dire. On les voit moins. Et les Montpellierains qui récupèrent de la possession plus haute, qui se montrent plus dangereux. On sent que cette ouverture du score concédé a ralenti un petit peu les volontés lilloises de se projeter vite vers l'avant. Même si là, encore une fois, Rémi Cabella sur son couloir droit, qui va trouver Zegrova, qui retrouve Cabella. Là, qui met le ballon à la phase de réparation pour Jonathan David, mais encore une fois Estève est là pour dévier ce ballon, mais c'est pas terminé avec Bamba pour André Gomes qui va se mettre sur son pied droit, la frappe d'André Gomes enroulée, enveloppée parfaitement, détournée par Mathis Carvalho qui s'est couché. Voilà, on disait que les Lillois s'étaient calmés, et il suffit de dire ça pour recréer une nouvelle situation avec André Gomes, frappe bien sortie, bien boxée par Mathis Carvalho qui va concéder le corner, le quatrième corner de la l'après-midi pour les Lillois. Et c'est toujours André Gomes qui va le frapper. Et ils sont toujours très bien frappés. On a vu déjà deux situations chaudes, dont une qui s'est terminée sur la barre transversale de Carvalho. C'est frappé encore très bien, mais cette fois-ci, c'est Mamadou Sakho qui vient claquer sa tête. Attention, il y a un 2 contre 2 à jouer pour les Montpellierains avec Eliwai. Eliwai avec l'appel de Nordin. Eliwai qui va jouer tout seul. Eliwai qui va défier toute l'arrière-garde lillois. C'est dommage. Il a mal donné ce ballon à Arnaud Nordin. Il avait fait un sprint de 70 mètres. Il avait profité de l'appel de Nordin. Il était rentré dans la petite brèche ouverte par les Lillois. Et l'extérieur du pied manquait tout petit peu de puissance pour aller trouver Nordin qui s'était bien décalé. Mais ils avaient parfaitement combiné quasiment les Montpellierains. Ils avaient aspiré les Lillois. Et c'est dommage, le dernier passe manu d'Eliwai ouais. pour Nordin. Mais ouais, il avait vraiment fait quasiment tout seul, Eliwai, sur ce coup-là.
Oui, il a été un peu fatigué, je pense, parce qu'avec la course de 30-35 mètres qu'il a fait, c'est vrai qu'après, on est plus lucide de pouvoir faire une passe décisive. Mais je crois que Nordin, il aurait dû rentrer dans son dos et passer plutôt sur son côté droit et ouais, plutôt aller sur le côté gauche pour attirer et pour s'ouvrir un peu plus le but. Parce que là, même si Nordin avait réussi à avoir le ballon, je pense qu'il était dans un angle un peu plus fermé. Ouais, bon, après, on n'est pas sur le terrain. Nous, on le voit à la télé, c'est plus facile. Mais après, sur le terrain, ça va plus vite et on fait des choix, des fois, qui ne sont pas très bons.
32 minutes à la Mosson, 1-0 pour les Montpellierains avec le quatrième but de la saison d'Eliway, marqué à la 20e.
Allez, on continue de suivre ce match du côté de la Mosson dans l'Intégral Sport. On revient dans 40 secondes pour revenir aussi sur l'événement hier soir à Paris, à Bercy. C'était la première de l'UFC avec la belle victoire de Cyril Gane, le français. C'est du MMA, évidemment. On en parle dans quelques instants.
RMC Intégral Sport,
Flora Messi.
La sixième journée de Ligue 1 continue sur RMC tout au long de la journée, évidemment, avec l'affiche ce soir entre Nice et Monaco à 20h45. Nous, on est à la Mosson avec Julien Landry, Montpellier, Lille. On approche du dernier quart d'heure.
Exactement. 1-0 pour les Montpellierains. Il reste 17 minutes à jouer exactement à la Mosson. Alors qu'Arnaud Nordin avait réclamé une petite faute sur cette balle en profondeur, non sifflée par Monsieur Brizard. Mais les Montpellierains, en tout cas, qui font preuve de beaucoup, beaucoup de solidarité dans ce premier acte. Défensivement, ils ont été quasiment présents sur toutes les zones dangereuses, même s'ils ont été sauvés par la barre transversale et par le poteau. Mais première mi-temps intéressante des Montpellierains à 35 minutes de jeu à la Mosson. 1-0 pour les Montpellierains avec ce but d'Eliway.
L'Intégral Sport avec Manu Amoros. On va parler sport de combat tout de suite parce que c'était une grande première en France hier. La plus grande organisation de MMA au monde, l'UFC, était à Paris à l'Accor Hotel Arena de Bercy avec le numéro 1 des poids lourds, le français Cyril Gane, dans une ambiance incroyable. Le natif de La Roche-sur-Yon a mis KO son adversaire, l'Australien Tai Tuivasa, au troisième round.
Je suis un warrior, je suis un guerrier. Peu importe si je tombe, je me relève, il n'y a pas de souci. Les gens doutaient de ça. Aujourd'hui, je montre que je sais tout faire. J'ai pas de mots pour décrire ce que vous êtes en train de nous faire vivre, les gars. Franchement, merci, 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 merci.
Morgan Maury a suivi ce combat hier pour RMC. Salut Morgan.
Bonjour Flora, bonjour à tous.
Est-ce que toi aussi tu as vibré comme toute la salle de Bercy hier?
Mais c'était un moment historique déjà d'avoir l'UFC, les fans de MMA et ils attendaient ça depuis très très longtemps. C'est un sport qui était illégal il y a encore 2 ans. Il y a beaucoup de gens qui pratiquaient, j'allais dire sous le manteau, le MMA, qui ne sont plus là pour voir ça dans les années 90, qui attendaient ce moment. Et voilà, l'UFC, la plus grande organisation, avec un show qui est au millimètre, avec le marketing américain autour de ça. 5 combats français, 5 victoires françaises, un public aux anges, et que demander de mieux.
T'as regardé toi Manu ou pas?
Ah non, je n'ai pas regardé. Non, c'est pas un sport qui m'attire réellement, mais bon, voilà, on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est un sport quand même assez violent, assez dur.
Ah oui, ça, je te confirme que ça a frappé fort dans l'octogone. Ah ouais.
Par rapport à Carlos Moser, Eric Dimeco, c'est moins violent.
On a vu. Morgan, on a vu un Cyril Gane impressionnant, sûr de ses forces, même s'il s'est fait une petite frayeur quand même. Hein.
Oui, il était attendu, le Français. Son dernier combat, il y a 7 mois, pour la ceinture mondiale contre Francis Ganou, il l'avait perdu ce combat. Cyril Gane est le numéro 1 dans la hiérarchie derrière Francis Ganou. Tai Tuivasa, numéro 4 dans la hiérarchie. C'est un garçon qui distribue énormément de KO. Cyril Gane a gagné, remporté un match après une défaite. C'est une preuve de qualité. Et ce qui est notable, Flora, c'est ce que vous venez de dire. Cyril Gane, dans ses combats précédents, ses combats remportés précédemment, il était assez linéaire, il dominait ses adversaires. Là, au deuxième round, il a pris une droite, une patate de forain, comme on dirait, de Tai Tuivasa, garçon qui gagne extrêmement fort. Mais il s'en est tout de suite relevé et il a pris le lead, il a pris la tête de ce match derrière pour en terminer par un arrêt de l'arbitre à la troisième reprise. Mais le Français a bien eu la lumière éteinte, il a confirmé au micro de RMC hier soir.
Il y a eu une vraie perte de connaissance, c'est-à-dire que le coup, je l'ai même pas senti pour te dire, j'ai juste senti mes fesses taper le sol et j'ai vu se rapprocher vers moi, j'ai tout de suite accroché les jambes. Bon réflexe, ça m'a pas perdu ça et tout de suite je reviens, il m'a fallu 3-4 secondes et j'étais de retour, mais scénario de fou malade.
Voilà, Gane qui a progressé, on peut le dire. Flora, il y a 3 semaines, il s'est blessé à une côte, fracture d'une côte, il avait gardé cette blessure secrète, il ne pouvait pas annuler le combat. Mais... donc preuve de mental pour le combattant de la Roche.
Morgan, oui. Dans ce sport, tout est permis ?
Non.
Ah bon ?
Non,
il y a des règles.
C'est quoi les règles exactes alors ? On a le droit d'utiliser les coups de poing et les pieds ?
Coup de poing, coup de pied, la main fermée, tu ne mets pas des gifles, tu ne mets pas les doigts dans les yeux, tu ne mords pas, tu n'attaques.
Oui.
Pardon ?
Oui, parce qu'ils n'ont pas des gants, donc ils ont juste des protections.
Ce sont des petites mitaines qui ont une petite épaisseur, qui ne sont pas aussi épaisses que des gants de boxe, mais oui, tu as des petits gants, des mitaines.
D'accord.
Un objectif maintenant pour Cyril Gane, Morgan, c'est évidemment, il l'a rappelé au moment de sa victoire, c'est combattre à nouveau pour avoir la ceinture de champion du monde.
Oui, la première occasion, il l'a manqué face à Francis Ganou, qui était présent dans la salle, le Camerounais au premier rang pour apprécier peut-être son futur adversaire. Donc il fallait à tout prix remporter ce combat pour Cyril Gane, pour rester dans le haut du tableau, dans la hiérarchie, pour ses prétendants à la ceinture mondiale. Francis Ganou est en train de se soigner, il était blessé au moment du combat avec Cyril Gane, il s'est fait opérer, il est en train de revenir progressivement, il n'a pas de combat qui sont annoncés. Gane fait partie d'un trio avec les Américains Stipe Miocic et John Jones, deux très grands champions de l'UFC. John Jones, c'est une légende, ils devraient s'affronter, ces deux garçons, prochainement.
Ça va être dingue, hein.
Ouais, ce n'est pas encore, on n'a pas encore de date, c'est pas encore annoncé, mais dans ces trois-là devrait sortir le challenger, le futur adversaire de Francis Ganou. En tout cas, Cyril Gane, qui pour la première fois de sa carrière a été mis au sol et a réussi à renverser le combat, a marqué les esprits. Il a même marqué les esprits de Dana White, le grand patron de l'UFC. C'est le grand Manitou de l'UFC, l'homme qui fait les carrières de l'UFC. Il n'était pas présent à Paris, mais il a suivi ça. Et on pourra compter sur le Français dans de belles cartes pour à l'avenir, Flore.
Ouais, parce qu'on rappelle que Cyril Gane est numéro 1 du classement de cette catégorie des poids lourds, parce qu'on rappelle que le champion n'est pas classé. Et donc c'est lui pour le moment le challenger numéro 1. En tout cas, hier soir à Bercy, c'était aussi ça.
Oh, une Marseillaise appréciée, kiffée.
Et ça, c'était pendant le combat de Cyril Gane face à Tai Tuivasa. C'est inédit et on a compris, Morgan, toute l'impatience qu'il y avait pour le public français de voir un événement UFC à Paris. Ils ont répondu présent. D'ailleurs, je crois que les places se sont vendues en quelques heures.
Oui, en 10 minutes environ, on va dire, le sold out. Les 12 000 premières sont parties en 5 minutes chrono. Une liste d'attente de 200 000 noms. Voilà, 200 000 personnes qui voulaient des places, qui sont sur la liste d'attente. Bercy, avec 3,3 millions d'euros, a fait son record de recettes au guichet. C'est un événement qui a marché du tonnerre. Et on le sentait devant la salle, Flora, dans l'après-midi. Il y a une fan zone qui ouvrait à partir de 13h, début des matchs à 18h. Il y avait énormément de monde pour tester les activités offertes par l'UFC, poser en photo avec les champions. Mais dans ces soirées-là qui sont longues, il y a ce premier combat à 18h, fin de Cyril Gane.
Égalisation ! Lillois, signé Jonathan David. Il poussait les Lillois depuis 5 minutes. Ils avaient multiplié les offensives avec Amad Amounas, avec Rémi Cabella. Amounas qui avait remplacé Zegrova. Et là, Jonathan David lancé parfaitement dans la profondeur par Rémi Cabella. Et Jonathan David qui vient tromper Mathis Carvalho d'une superbe frappe un petit peu piquée. Belle passe de Cabella. Et derrière, Jonathan David, là aussi, vrai geste d'attaquant, vrai geste de buteur pour l'international canadien qui permet aux Lillois d'égaliser juste avant la mi-temps. Il reste 4 minutes à jouer à la Mosson, un partout entre Montpellier et Lille avec localisation de Jonathan David.
Manu Amoro, c'est le moment parfait pour les Lillois pour revenir dans ce match.
Oui, c'est mérité dans l'ensemble parce que les Lillois ont eu les meilleures occasions, ils ont énormément pressé, très bon jeu collectif, ils se font prendre sur des contres et heureusement que les Montpelliérains jouent très mal les contres parce qu'il y a des situations à 2 contre 2 ou 3 contre 2. Donc voilà, mais c'est mérité. Belle balle en profondeur, frappe croisée un peu en l'air. Carvalho ne peut rien là-dessus.
Alors on va vivre avec Julien Landry la fin de cette première période entre Montpellier et Lille, un partout donc dans cette sixième journée de Ligue 1. On termine sur cette soirée UFC hier soir à Paris avec Morgan Mori parce que c'est vrai que c'était une réussite et on attend maintenant la prochaine soirée à Paris.
Oui, Laurence Epstein, l'un des patrons de l'UFC, était en conférence dans la semaine et il a affirmé qu'il aimerait sanctuariser cette date parisienne au mois de septembre. Alors Paris a eu droit à une fight night, ce ne sont pas les grands événements UFC, ce sont des événements qui sont numérotés UFC 270, là où les grands championnats, c'est le rang en dessous, Paris, mais la soirée a très bien fonctionné, les gens étaient présents dans la salle dès 18h pour le premier combat, Flora, alors que la soirée a duré plus de 6h, donc ça ne trompe pas que l'attente était forte du côté du public français. Bercy était plein jusqu'à minuit 15, la fin du combat de Cyril Gane.
Il y a un homme qui s'est régalé, c'est évidemment le français qui en a profité pour remercier comme il se doit son public.
J'ai pas de mots pour décrire ce que vous êtes en train de nous faire vivre les gars, franchement merci, 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 merci. On se posait énormément de questions sur ce qu'était le public français. Il n'y a plus aucun doute, le public français est un des meilleurs de la planète.
Et il a porté chance aux Français. Il y avait 5 combattants dans l'octogone hier. Et bien 5 victoires, celle de Cyril Gane donc, mais aussi Nassourdine Imavov, William Gomis, Fares Ziyam et Benoît Saint-Denis. Merci beaucoup, Morgan Mori. Nous, on va revenir à la Ligue 1. On est dans les dernières minutes de cette première période entre Montpellier et Lille, Julien Landry et Manu Amoros.
Ouais, 2 minutes encore à jouer à la Mosson dans une première mi-temps qui aura été en tout cas très très plaisante des deux côtés. Manu, ouverture du score des Lillois à la 20e, égalisation de David à la 41e. Les Lillois qui ont frappé le poteau, la barre transversale. Et là, Adamounas qui a fait vraiment une excellente entrée. Adamounas qui va très vite lui aussi. On sent que balle au pied, ça percute. Il a remplacé Zegrova. Et sur son premier ballon, il avait mis en difficulté l'arrière-garde montpelliéraine. Mais tu l'as dit, Manu, c'est mérité de la part des Lillois. Parce que Carvalho, il avait retardé l'échéance également. Mais sur l'égalisation de David, il peut rien. Mais ça récompense en tout cas la très bonne première mi-temps des Lillois.
Oui, surtout que David, en plus, il remue énormément. Il demande le ballon en profondeur. Il y a Cabella derrière qui distille très, très, très bien ces ballons-là. Et puis, bon, chez eux, il y a juste un petit problème, c'est qu'il faut qu'ils se méfient des contres de Montpellier. Parce qu'ils vont très vite, ils se retrouvent des fois en infériorité numérique. Donc, voilà, il va falloir qu'ils rajustent un petit peu le milieu de terrain avec les gens qui sont sur le piston, que ce soit Ismaili ou Diakité. Donc, voilà, il va falloir un peu corriger ça. Parce que sinon, dans l'ensemble, Lille fait un très bon match. Au niveau collectif, au niveau occasion, au niveau pressing.
Ouais, c'est vrai que c'est très plaisant, mais voilà, on disait que Ismaili et Diakité jouaient très haut et voilà, les Montpelliérains ont essayé d'en profiter par Nordin et par Eliwahi qui eux prennent très vite la profondeur. Et c'est vrai que tu le disais, Manu, s'ils avaient peut-être mieux négocié un ou deux contres lorsqu'ils menaient 1-0, il pourrait peut-être y avoir 2-0 pour les Montpelliérains parce que Nordin et Eliwahi à plusieurs reprises ont réussi à tromper l'arrière-garde lilloise, mais il y a eu des mauvais derniers gestes, notamment peut-être d'Eliwahi tout à l'heure sur Nordin, qui est sûrement le contre le plus gros de la part des Montpelliérains qui avait mal été négocié. On va rentrer dans le temps additionnel. Il y aura exactement 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes, c'est très agréable parce qu'on s'est régalé dans cette première mi-temps et donc on aura 3 minutes de bonheur en plus à suivre ce match-là avec le long ballon d'André Gomes qui aura fait lui aussi pour sa première avec les Lillois, Manu, une première mi-temps très intéressante. Et c'est vraiment lui aussi le premier animateur du jeu lillois. On l'a vu frapper, on l'a vu organiser. C'est vraiment une très bonne pioche de la part des Lillois d'être aller chercher André Gomez.
Oui, alors il faut attendre un petit peu. Hein. C'est vrai qu'il fait un début de match qui est très intéressant au milieu de terrain. Il distribue bien, il joue court aussi, il sait jouer court. Donc c'est un joueur qui est très intéressant, un joueur qu'il va falloir voir.
En manque de rythme, peut-être quand même, Manu, parce que c'est vrai qu'il avait une grosse blessure hein, quand il était à Everton. Hein.
Ouais, il a eu une grosse blessure, mais bon, tu sais que maintenant, les joueurs qui sont blessés, ils arrivent à récupérer. On met tous les outils nécessaires à ces joueurs-là qui sont blessés à pouvoir revenir très rapidement. Donc c'est un joueur de qualité, il va falloir attendre un petit peu au niveau aussi physique parce qu'il n'y a rien de mieux que les matchs pour être compétitif par la suite.
Les Lillois vont devoir gérer Eli Wahi, un partout toujours entre les deux formations, 1 minute 15 déjà de disputer dans la temps additionnel, mais encore une fois Eli Wahi qui avait pris la profondeur, mais heureusement pour les Lillois, Thiago Diallo était là pour veiller sur cet appel à profondeur encore une fois d'Eli Wahi, qui aura vraiment été très dangereux aussi dans
Il y a une mauvaise entente Julien,
entre Diallo et Fonte.
Thiago et Fonte, il y a une mauvaise entente, ils n'arrivent pas comme tu disais à Wahi à vraiment le prendre parce qu'il décroche et après il demande en profondeur. Alors est-ce qu'on doit est-ce que Fonte doit y aller, est-ce que Thiago doit y aller, ils ne savent pas trop, alors que c'est vrai que Thiago doit y aller parce que c'est lui qui va le plus vite et Fonte restait un petit peu pas très loin à la hauteur, que si jamais Thiago se fait dribbler, lui il peut intervenir.
Ah mais c'est vrai qu'Eli Wahi va souvent chercher le dos de José Fonte pour essayer de perturber le capitaine lillois. Il avait réussi à la 20e en allant ouvrir le score, mais là ce sont les Lillois encore une fois qui ont le ballon avec Adamounas qui décale sur le côté droit pour Rémi Cabella. Les deux joueurs qui combinent le long de la ligne de touche avec Adamounas, le très bon dribble, le double dribble d'Adamounas. Il avait éliminé Léo Leroy d'un petit passement de jambe, mais derrière il n'a pas réussi à se défaire de Nicolas Cozza. Entrée remuante également d'Adamounas depuis 10 minutes qu'il est sur la pelouse, il fait beaucoup de différence sur son couloir droit. Les dernières secondes à jouer à la Mosson dans cette première période, alors que le soleil fait son apparition et qu'il y aura une grosse faute de Valère Germain sur Adamounas, justement le joueur en provenance de Naples qui a signé lui aussi dans les dernières heures du mercato, tout comme André Gomez jeudi, pour le plus grand plaisir de Paulo Fonseca. T'en parlais tout à l'heure, Flora, qui n'était pas forcément ravi de la fin du mercato. Il s'en était plaint d'ailleurs après le match de Nice. Et il a été écouté par rouge pour Valère Germain. Alors là, il faudra revoir. C'est vrai que les cartons rouges depuis le début de la saison, Manu, ils sont parfois donnés de manière surprenante. Et là, très honnêtement, et on n'a pas l'impression que Valère Germain, il ait fait preuve de violence ou l'avoir envie de faire mal sur Adamounas. Et Monsieur Brizard, il a sorti le rouge direct, sans appel à la VAR. Alors il faudra revoir, mais. Ouais, Valère Germain, c'est incroyable.
Ouais, mais alors tu peux plus jouer au football, tu peux plus toucher un joueur.
Bah, c'est pas volontaire, Manu, mais c'est vrai qu'il peut pas lui faire volontaire. Mal sur le terrain quand même.
Il le fait pas esprit, il veut essayer de récupérer le ballon, il le fait pas volontairement.
Ouais, il a le pied qui se lève et il attrape l'arrière du tendon d'Achille d'Adamounas.
Puis ils ont un outil des arbitres, c'est qu'il y a la VAR. Il peut attendre, voir d'abord comment le joueur récupère ou récupère pas. Et après, on peut discuter avec la VAR, savoir si c'est volontaire ou pas volontaire. Alors on a l'impression que c'est pas volontaire, il essaie de récupérer le ballon, mais c'est pas non plus.
Et puis on peut vous annoncer qu'Adamounas il va pas se sentir blessé sur ce coup-là. Et
je pense pas, non,
il va se relever. Hein, Adamounas, je pense, de cette blessure-là. Donc Adamounas en fait récupère le ballon, Valère Germain est un tout petit peu derrière, il lève le pied et il attrape l'arrière du tendon d'Achille d'Adamounas et Monsieur Brizard a donc sorti le rouge direct. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, les rouges sifflés par les arbitres, ça va quand même. Excessivement vite
les terrains.
Ouais, c'est vrai. Ben, les Montpellierains, ils avaient fini à 9 contre 9 contre Auxerre il y a 15 jours. Ils ont fini à 10 contre 10 mercredi soir contre Ajaccio. Et là, ils sont encore à 10 après le carton rouge reçu par Valère Germain. C'est vrai que ça tombe. Hein. Ils avaient joué aussi à 11 contre 10 à Brest avec le carton rouge reçu par Pierre Lesmélou. Et là, Valère Germain, et puis il n'y a même pas vérification du VAR. On voit même pas Monsieur Brizard discuter avec son camion pour aller revoir l'image. Il est sûr de lui. Ça a été confirmé. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que.
Ouais, c'est surprenant.
Ouais, je trouve que le rouge, il est un peu dur. Oui, il y a faute, mais le rouge est sévère quand même pour Valère Germain sur ce coup-là.
Ça mérite un jaune, ça suffit. Et c'est comme tout à l'heure sur le carton de Thiago. C'est pareil, il lui retient un petit peu le maillot, mais laisse faire. Tu siffles coup franc et tu lui dis la prochaine fois, je vous mets un carton jaune. Il a sorti de suite le carton jaune. Après, ça manque de pas méchant non plus.
Ça manque de pédagogie. Puis en plus, ouais, pour beaucoup. Le coup, Valère Germain, c'est quand même vraiment pas l'un des joueurs les plus méchants de notre championnat, Valère Germain. Non. Et on peut être sûr qu'il a pas fait exprès d'attraper le tendon d'Achille d'Adamouna. C'est vrai que des fois, les arbitres manquent de pédagogie sur ces situations-là. Et la mi-temps est sifflée à l'instant par Monsieur Brizard sur ce score de 1 partout. Mais un match qui va évidemment changer de physionomie dans cette deuxième période. Ce sont les Montpellierains qui avaient ouvert le score par Eli Wahi à la 20e. Égalisation de Jonathan David à la 41e. Les Montpellierains sauvés une fois par la barre transversale, une fois par le poteau, mais qui vont terminer ce match à 10 avec le carton rouge reçu par Valère Germain à la toute fin du temps additionnel.
Ouais, Manu, j'allais te dire finalement qu'à un partout, Montpellier s'en sortait bien dans cette première période, ouais. Mais là, avec le carton rouge, ça change tout.
Ouais, ça change tout. Puis on a vu un match très plaisant. Donc l'arbitre vient s'immiscer dans un match où il y avait des actions, il y avait du jeu, il y avait des occasions de part et d'autre, même si Montpellier a joué souvent le contre. Voilà, et au lieu de s'effacer par rapport à ça, il veut être l'acteur principal de ce match-là, alors qu'il doit s'effacer par rapport aux joueurs. C'est bien dommage.
Ouais, parce que ça peut changer totalement le visage de cette seconde période qu'on va vivre évidemment dans l'Intégral Sport avec Manu Amoros. Et puis on va parler aussi sport mécanique dans quelques instants, parce qu'à 14h, c'est le départ du Grand Prix de Saint-Marin en moto GP. On fera le point avec Paul Lafitte, où en sont nos Français pas très bien classés pour le moment. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.